cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 14 mars 96.
Vous avez appris hier soir la mort du père du frère Philippe Néri. J'ai reçu un coup de téléphone du père Gilbert qui m'a donné quelques détails. Le père, le frère, était en train de préparer le petit cimetière là-bas, puisque vous savez qu'on a eu la permission de pouvoir enterrer nos frères. Chaque fois, on a une permission, mais c'est quand même un lieu qui est accepté. Alors, il préparait cela en vue de ramener le corps de Karl Thomas samedi. Alors, il cherchait des petits cailloux pour mettre dessus. Alors, il a pris avec son remorque, ça a glissé, il a mal pris son tournant. On voit très bien l'endroit où il y avait une pente très raide. C'est sûr, ce sont des chemins de montagne, ce sont des chemins qui sont pas faits. Et on connaissait notre cher frère qui fonçait, hein, sur, quand il y avait des obstacles, il fallait que les obstacles cèdent.
J'aurais dit qu'il restait chez lui, au fond, un désir très grand de se donner.
c'est-à-dire ce fait qu'on est unique. Il faut essayer de comprendre ce que c'est que l'autonomie. L'autonomie, c'est d'abord comprendre qu'on est unique, qu'on a quelque chose d'original et d'unique, distinct des autres. Et que on peut découvrir progressivement les limites de cette autonomie. Mais il y a cette autonomie fondamentale dans notre je suis et dans notre personne. Il y a ensuite la structure de notre personne, de notre individualité qui se fait par la soif de vérité. C'est cette soif de vérité qui, je crois bien, apparaît en premier lieu. Tant qu'il n'y a pas soif de vérité, on reste des individus, mais notre personne comme telle ne se découvre pas. C'est vraiment l'œuvre de l'intelligence et de l'éveil de l'intelligence dans ce qu'elle a de plus elle-même, la recherche de la vérité qui est ce qu'il y a de plus nous-mêmes. Et cette recherche de la vérité, elle est unique pour chacun d'entre nous. Dès le point de départ, elle prend un caractère particulier. On peut très bien s'être éveillé à cette recherche de la vérité plus tard, c'est sûr. Au début, on ne savait pas très bien ce que c'était. Et quand l'Église parle de l'âge de raison, c'est très difficile à préciser. Parce que c'est surtout d'abord un point de vue pratique. C'est sûr, génétiquement, ce n'est pas la recherche de la vérité qui apparaît en premier lieu. Mon intelligence apparaît d'abord comme naissant à partir de la cogitative. Elle naît à partir du devoir, à partir de l'obéissance. Il y a un petit blocage qui se fait très très fort entre le point de vue tout à fait pratique de l'obéissance, l'exécution, ce qui arrive très vite. Cherchez le premier acte d'obéissance que vous avez fait. Vous ne savez plus très bien. Vous savez mieux le premier acte de désobéissance. Ordinairement, ça a fait plus de bruit que l'obéissance. La désobéissance a été quelque chose où on s'est affirmé. On a dit non à sa mère. Ordinairement, c'est plutôt à la mère, plutôt qu'au père. On a dit non. On a essayé à tâtons, de façon un peu cachée, dans les ténèbres, de dire non. Progressivement, l'intelligence pratique s'est éveillée. Et au-delà de l'intelligence pratique, il y a eu cette recherche du bien de l'intelligence. Et ce bien de l'intelligence, recherche de la vérité. Vous voyez, je crois que c'est important dans cette recherche que nous faisons au point de vue métaphysique de bien distinguer l'aspect génétique, l'apparence, la naissance et puis la constatation. Ici, ce que nous faisons, c'est la réalité que nous découvrons dans notre je suis. Au sens le plus fort, présupposant déjà toute la recherche philosophique. C'est pas la découverte psychologique de notre recherche de la vérité, c'est dans le je suis est impliquée cette recherche de la vérité, comme la structure même de cette recherche de la vérité, comme la dimension très profond un dépassement de tout le monde sensible, de tout le monde affectif, passionnel, pour découvrir quelque chose de plus grand, un dépassement par rapport à nous-mêmes. Cette recherche de la vérité. Et parallèle à cette recherche de la vérité, cette découverte de cette capacité que nous avons d'aimer, les deux se tiennent, mais l'un reste en connaturalité beaucoup plus concrète vis-à-vis de ce que nous sommes comme individus, et l'autre est un dépassement. C'est très curieux, cette rivalité qui n'est pas une rivalité au point de départ, qui risque de devenir une rivalité dans l'éveil de notre intelligence qui recherche la vérité. Et cette capacité que nous avons d'aimer, et non seulement cette capacité, puisque la capacité se découvre à partir de l'exercice même de l'amitié, l'ami qu'on a choisi, qu'on a aimé, et qu'on aime, et puis la recherche de la vérité. Ces deux grandes dimensions qui se précisent en nous, notre amour et notre recherche de vérité, c'est quelque chose de très grand et très beau. Et cela fait partie essentielle de notre « je suis ». Vous voyez, ces trois premières dimensions sont absolument essentielles. Autonomie, recherche de vérité, l'amitié, c'est plus ou moins développé. Et pour chacun d'entre nous, ce développement de l'intelligence et de la volonté et de l'amour est personnel. Chez certains, le développement de l'amour sera plus intense et s'imposera d'une manière beaucoup forte. Chez d'autres, la recherche de la vérité sera premier et sera non pas ce qui prend tout. Il y aura toujours la recherche de l'amour, la recherche de l'ami, s'appuyer sur l'ami. Mais autre chose est s'appuyer sur l'ami, autre chose est découvrir la vérité. S'appuyer sur l'ami, c'est notre vérité pratique. Point de vue purement humain. ne s'en occupe pas. Oui, celui qui stâterait toujours le pouls pour savoir s'il est autonome dans l'amour d'amitié, bien je crois que ça deviendrait un obstacle. L'autonomie n'est pas une finalité, c'est une condition sine qua non. Et une condition que nous réalisons, nous devenons autonomes. On l'est. Et on le devient dans notre conscience, dans notre désir de vérité, dans notre amour d'amitié. Puisque l'amour d'amitié implique un désir, une soif de grandir, puisque la recherche de la vérité implique un devenir, une soif d'aller toujours plus loin, puisque l'autonomie elle-même se conquiert et n'est pas donnée dans une stabilité absolue. On comprend qu'il faut regarder alors comment grandir, comment dans notre personne humaine intervient cette dimension de croissance. Nécessaire à la personne humaine. Je crois qu'une personne humaine ne reste vraiment une personne humaine que quand elle sait qu'elle ne cesse de grandir. Alors, le comment de cette croissance, et le comment de cette croissance, c'est l'éveil en nous de cette dimension très particulière, de cette petite sagesse pratique qu'on appelle la prudence. Il y a en nous cette prudence. La prudence, c'est l'intelligence qui cherche la vérité, mais dans le domaine de la croissance de la vie. De la croissance de l'amour. Voyez, le jour où la prudence n'est plus dans ce domaine de la croissance et que la prudence devient uniquement une sorte d'équilibre, je crois que la prudence perd ses ailes et qu'elle une finalité. Elle est quelque chose que j'acquiers, une vertu que j'acquiers, la vertu morale, intellectuelle que j'acquiers, mais je l'acquiers pour toujours la dépasser. Je ne peux jamais considérer la prudence comme un avoir. Considérer la prudence comme un avoir, c'est la destruction. Hélas, c'est très souvent ce qui arrive. On considère la prudence comme presque ce qui me finalise. Et là, il y a une très grave erreur, parce que c'est un repliement sur soi. Et la prudence, quand elle devient un repliement sur soi, et uniquement cela, je me tâte le pouls. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Je m'aperçois que j'ai des limites et je m'intéresse surtout à ces limites. Les limites de mon autonomie, les limites de ma recherche intellectuelle, les limites de mon amour d'amitié. C'est un aspect de la prudence, c'est sûr. Mais c'est un aspect de la prudence qui est une condition sine qua non pour grandir. Si vous ne voyez pas vos limites, vous ne grandissez pas. Vous n'avez pas le désir de la victoire, ce désir d'aller plus loin, ce désir de dépasser. en autonomie ou cette recherche de la vérité ou l'amour d'amitié. C'est très curieux de voir que la prudence implique un repliement. Conscience, j'ai conscience de l'homme prudent. dépasse ou ne me dépasse pas, si les autres sont mes amis ou pas mes amis, si les autres me nuisent ou au contraire me font du bien, c'est moi, à des niveaux différents. Je crois qu'il faut se situer là, puisqu'on est à un niveau moral, que le grand ennemi de la croissance, de la recherche de la vérité, c'est l'orgueil. Et la vanité, le terrible ennemi de la croissance de l'amour d'amitié. On veut jouer un rôle. C'est ça la vanité. L'orgueil, on veut être le seul intelligent. Et la vanité, on veut jouer un rôle. On se pare les plumes du pan. Tout ce qui est extérieur à nous et qui vient des autres, on se l'attribue. Alors, la vanité arrête le développement de l'amour. C'est curieux de voir comment il y a dans la prudence cette lutte incessante contre l'orgueil et la vanité. Parce que je vis dans un milieu humain, et dans ce milieu humain, je veux jouer un rôle. Au fond, il y a derrière l'orgueil et derrière la vanité un certain primat de l'efficacité, je crois. Si on recherchait uniquement la vérité, il n'y aurait pas de danger de l'orgueil, parce qu'on accepterait cette vérité de partout où elle vient. Et on saurait que tout homme qui recherche la vérité a quelque chose à me dire, quelque chose à m'apprendre. Et je l'écouterai, même si au début ça peut m'agacer, même si au début je vois ses grosses erreurs, il y a toujours des petites paillettes de vérité, d'or. Et c'est, là, il y a quelque chose de très important au point de vue prudence, l'acquisition de cette petite sagesse pratique. Qui est tout un rayonnement de la recherche de la vérité. Et au niveau humain, au niveau de l'homme qui prend conscience de ce qu'il est, au niveau de l'homme qui prend conscience de ses qualités, de ses défauts et de ses limites. La prudence ne peut s'exercer que si la justice, la force et la tempérance sont victorieuses dans leur propre terrain. Autrement dit, la prudence ne peut s'exercer que si il y a l'acquisition des autres vertus dites cardinales. On dit vertus cardinales parce qu'elles sont fondamentales. ne cesse d'acquérir. Pourquoi ? Parce que le milieu dans lequel on vit change. C'est la prudence qui maintient la souplesse. S'il n'y a pas la prudence, je risque, voyez, de devenir quelqu'un de très formel. C'est-à-dire, mon acquis intellectuel mesure l'acquis des autres. Et je deviens insupportable. Parce que je ne veux pas grandir. Je domine. Je transforme mon autorité en puissance. L'autorité normale que j'ai, dans la mesure où je cherche la vérité, se transforme en potentat. J'ai la puissance. Et c'est terrible de voir comment l'intelligence pratique peut se corrompre par l'orgueil. L'intelligence spéculative qui cherche la vérité peut demeurer, mais mon intelligence pratique, prudentielle, se corrompt. Et je crois que si l'intelligence pratique, prudentielle, se corrompt par l'orgueil, l'orgueil arrivera tôt ou tard à arrêter cette recherche de la vérité. Il faut avoir ce regard très net sur l'exigence d'une recherche de vérité qui réclame la pauvreté, qui réclame d'accepter la dépendance à l'égard des autres. Les deux sources de recherche de la vérité, c'est mon expérience et l'expérience des autres. C'est-à-dire l'opinion des autres, mais plus que l'opinion, quand les autres sont des amis et qu'ils me disent leur expérience, c'est plus qu'une opinion, puisque l'ami est un autre moi-même. Donc c'est un prolongement de mon expérience. C'est ça qui est extraordinaire dans l'amour d'amitié. Et la prudence doit regarder que cet amour d'amitié est pour moi source de croissance, parce qu'il me permet de recevoir l'expérience des autres comme quelque chose d'important pour moi, qui est autre que ma propre expérience, et qui demeure quelque chose qui peut toujours me permettre de croître. C'est pour ça que la prudence implique cette ouverture vis-à-vis des autres. Je sais très bien que j'ai besoin de solitude pour maintenir cette recherche de la vérité. Mais ce n'est pas une solitude agressive, ce n'est pas une solitude qui rejette les autres, c'est une solitude qui me permet de rechercher la vérité avec encore plus d'amour, et donc de comprendre que l'amour d'amitié me permet de recevoir de ceux qui sont mes amis une très grande richesse qui vient compléter mon expérience. La vertu de prudence va exiger en premier lieu, vis-à-vis des autres, ce respect, la justice qui naît dans ce respect que j'ai vis-à-vis des autres. Je crois que c'est le premier moment de la justice, là. Quand il n'y a plus de respect vis-à-vis des autres, vis-à-vis de leur dignité intellectuelle et vis-à-vis de ceux qu'ils sont d'unique. Quand il n'y a plus ce respect de l'amitié. En quoi consiste-t-il par rapport au fait que l'ami n'est pas un avoir? Alors, la prudence consiste dans l'ouverture vis-à-vis des autres, à respecter leurs droits de personne humaine. Je respecte le « je suis ». Vis-à-vis de lui. Mais peut jouer là le droit de corriger mon frère, même au point de vue purement humain, dans l'amitié. Je n'ai pas le droit de coopérer à son erreur. Et donc je peux lui dire, je te suis jusque-là, mais là je ne suis plus. Est-ce que l'ami a le droit de corriger son ami? Si son ami lui donne ce droit. Cette chose très belle que saint Thomas dit, on corrige l'autre si on sait que la correction portera ses fruits. Si on est persuadé autrement, il vaut mieux pas corriger. Pour maintenir davantage l'amitié. Parce que corriger risque toujours de blesser. Si l'autre ne reçoit pas. Alors, à ce moment-là, il vaut mieux se taire. Contourner l'obstacle. Vous voyez, c'est extrêmement important de voir dans une lumière métaphysique, c'est-à-dire la personne humaine. Comment la prudence distingue le droit de l'ami et le droit de l'homme, la justice, et de comprendre comment je dois coopérer avec l'ami et comment je dois coopérer avec l'homme. La prudence me fait vivre de ce respect à l'égard de tout homme. Il y a dans tout homme une dignité que je dois respecter. Et c'est ça l'élément premier de la justice. Je respecte l'autre. Jusque dans ses serments, je ne coopère pas et je le respecte. Et si j'entends quelqu'un qui le critique, moi je ne le critique pas. Je passe mon chemin, je n'ajoute pas. Le respect à l'égard de l'autre, ça va très loin. Et ceci, vous voyez, au point de vue de la personne, me permet de mieux comprendre mon je suis. J'ai une originalité pratique dans mon je suis qui relève de ma prudence, qui relève de mon expérience, qui relève de ma cogitative. Cette connaissance d'ordre pratique, affective, sur ce qui est bon pour moi et ce qui est mauvais pour moi. Et je respecte que quelqu'un que j'aime est dans l'ordre pratique un chemin différent que le mien. Et je respecte qu'un homme dans l'ordre de la justice a un chemin distinct du mien. Je chercherai à le rejoindre et j'essaierai de le comprendre, mais je le respecte. Je ne considère pas que l'idéal, c'est que nous pensions toujours la même chose. Non, l'idéal est d'avoir la même intention de vie, la même recherche de vérité. C'est ça l'important. L'unité ne se fait pas dans les conclusions, mais l'unité se fait dans l'intention de vie. Ça, c'est la prudence qui me fait comprendre ça. Et c'est ça qui maintient l'unité. L'unité dans une communauté dans laquelle je vis, au point de vue humain, n'est pas dans le fait que tous nous avons les mêmes conclusions, et c'est que tous nous recherchons la vérité. Autrement, on tombe dans une sorte de tentation de domination, que nous pensions tous les mêmes conclusions. Ce serait une uniformité, mais ce ne serait plus l'unité. Et l'uniformité est agaçante. Et les perroquets répètent tous d'une façon semblable. Tandis que l'intelligence vit d'une façon unique et personnelle. Et on atteint la vérité autrement, justice distributive. Je n'analyse pas ici la justice, mais c'est important, et c'est très important de comprendre que la personne humaine n'est une personne humaine que si elle a un sens aigu de la justice, du bien de l'autre, de son avoir, de sa dignité, de son avoir au niveau justice commutative, de sa dignité au niveau justice distributive, et de la coopération que je peux avoir avec lui, justice légale. Et je respecte cela, parce que ça fait partie justement de ma connaissance de l'autre, et de la connaissance de l'autre de la manière la plus profonde. Il y aura la vertu de force. Il faut acquérir la vertu de force. La vertu de force consiste à accepter de se battre. Celui qui n'est pas fort, dès qu'il est en face d'un danger, il fuit. Il disparaît. C'est très curieux, cela. C'est pas drôle du tout. C'est en face des dangers de mort imminente qu'on peut tout de suite s'apercevoir si un homme est fort. Vertu de force. La vertu de force s'enracine dans l'irascible. Pour permettre à l'irascible d'être éduqué par la prudence, d'être au service de l'amour d'amitié. La vertu de force doit être au service de l'amour d'amitié et doit permettre à l'homme d'aimer dans la lutte et de conquérir de plus en plus l'amitié de l'autre dans la lutte. Parce que instinctivement, si on n'est pas fort, on aime l'autre uniquement quand tout est paisible. Et dès qu'il y a un petit orage, on se replie sur soi et on fuit. À ce moment-là, on n'aime plus. La vertu de force nous permet de ne pas perdre de temps. On est toujours capable de se battre, capable de lutter, capable de s'emparer de tout ce qui peut nous aider, aussi bien quand on est de bonne humeur ou quand on est de mauvaise humeur. C'est ça, être fort. C'est de dominer ce conditionnement particulier du corps. De le dominer plus ou moins. Parce que lorsque ce conditionnement devient un conditionnement extrêmement pesant, il fait que je n'ai plus aucune force biologique. C'est très difficile de maintenir en soi une ouverture vis-à-vis des autres. Quand on est trop fatigué, quand on n'en peut plus, c'est comme la bête. Elle se retire dans son terrier et elle ne veut plus qu'on l'agace, qu'on vienne la déranger. Donc, on se défend, mais on ne se défend pas humainement. On se défend biologiquement. Et se défendre biologiquement, c'est se replier sur soi. On échappe aux autres. Se défendre humainement, c'est la vertu de force qui, à travers les luttes constantes, maintient cet amour d'amitié. Comme tous les hommes, même quand c'est très dur, même quand il semble qu'il y ait des injustices. On maintient ce contact avec les autres pour progresser dans l'amour. Et si on voit qu'il n'y a pas moyen, que cela ne sert à rien, qu'on perd son temps, alors on aura suffisamment de lucidité et de force pour ne pas s'entêter dans la détermination qu'on avait prise, et on prendra d'autres moyens. Vous voyez, la vertu de force maintient la souplesse. L'entêtement, c'est toujours un signe de fragilité et de faiblesse. Alors on s'entête. J'ai décidé ça, c'est comme ça. C'est immuable. C'est toujours le signe d'une faiblesse. Et un manque de réalisme par le fait même. La vertu de force canalise tout ce qui, dans notre irascible, peut être au service de l'amour. Tandis que la vertu de tempérance canalise tout ce qui, dans notre appétit de jouissance à l'égard des biens sensibles, peut être et doit être dépassé. C'est le propre de la vertu de tempérance. Vous voyez comment ces vertus cardinales permettent à l'homme d'être prudent en vue d'aimer plus, en vue d'aller plus loin dans cette maîtrise de soi, et surtout d'aller plus loin dans la conquête de l'autre, et me permet de comprendre que cette conquête se fait tout le temps dans la lutte.